Poursuivons l'étude dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Peut-être que nous lisons. On va d'abord lire le verset de Luc 24, verset 34. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Venons vers l'évangile de Jean, donc au chapitre 21 et au verset 15. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. » Or, il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » La parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Jusque-là.
Je souhaite faire la liaison entre ce matin et cet après-midi, relire dans Luc 22. On a vu à midi, verset 61. Le Seigneur se tournant, regarda Pierre. Et le dernier regard du Seigneur, Pierre, avant qu'on lui couvre les yeux, verset 64. Judas, c'est... Le Seigneur lui a parlé, il lui a dit « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Et Judas, malheureusement, n'a pas été touché dans son cœur et sa conscience, il s'est pendu. Pour Pierre, le regard du Seigneur, ça a fait quelque chose. Et en fait, le Seigneur ne veut pas que si nous avons péché, que nous soyons malheureux. Le Seigneur veut que nous soyons heureux. Ici, si quelqu'un a péché, qu'il y a quelque chose de grave dans sa vie, il faut qu'il sache que le Seigneur le regarde cet après-midi et lui dit « Sois heureux ». Confesse ce que tu as fait, j'oublierai tout, on repart à zéro. Pour Pierre, ça a été un nouveau départ, et je voulais dire surtout insister pour dire que le Seigneur ne veut pas que l'on soit malheureux, le Seigneur veut que l'on soit heureux.
Aussi un lien avec ce qu'on a lu ce matin en début de réunion. Revenons aussi dans Luc 22, quand le Seigneur fait cette annonce en disant « Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » C'est un peu une clé ce passage-là aussi, de la restauration de Pierre. C'est magnifique de voir que, parfois, lorsque je pense à ce verset dans la première épître de Jean, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat, je dis parfois, c'est pas celui qui dit « il a rien fait, il a des circonstances atténuantes ». C'est pas ce que veut dire ce terme-là. L'avocat, c'est celui qui va s'occuper du cas de celui qui a un problème, jusqu'à ce que la situation s'est rétablie, il va prendre sa cause en main pour s'en occuper, pour l'aider. Et on pourrait dire, oui, alors est-ce qu'il faut attendre d'avoir confessé son péché pour qu'à ce moment-là, si quelqu'un a confessé son péché, alors l'avocat va venir s'en occuper pour le restaurer, non même pas. C'est si quelqu'un a péché, sans attendre peut-être que nous soyons revenus vers le Seigneur, eh bien, déjà le Seigneur commence à travailler dans nos cœurs, dans nos vies, pour parce qu'il veut quoi ? Il veut que la communion soit rétablie, il veut nous rapprocher de lui, nous ramener vers lui. Et on pourrait dire en voyant ce passage que ça va même plus loin. On peut dire avant même que la faute soit commise, là. Avant même que Pierre n'ait renié le Seigneur, eh bien déjà à ce moment-là, le Seigneur dit, on peut dire comme à l'avance, j'ai prié pour toi. Je sais ce qui va se passer, je sais par quelle épreuve tu vas passer, à quel point ça va être douloureux pour toi ce que tu vas faire, mais je ne t'ai pas laissé seul, je ne t'ai pas laissé en attendant de voir si tu finirais par revenir. J'ai déjà prié pour toi à l'avance pour que ta foi ne défaille pas. Et certainement, il y a eu ce travail de la part du Seigneur, et c'est encourageant de se dire que pour nous, le Seigneur prie pour nous. Il y a ce verset d'Hébreux 7 qui dit « Seigneur est toujours vivant pour intercéder pour nous ». Seigneur est celui qui prie pour nous. On pense peut-être pas assez souvent, en tout cas quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui me passait un peu à côté, cette pensée que le Seigneur dans le ciel est aussi celui qui s'occupe de nous, qui prie pour nous, et toujours dans ce but de nous rapprocher de lui, de nous ramener vers lui, toujours, toujours, et désire que la communion qui peut-être à un moment donné s'est un peu voilée, voire même a pu être interrompue, que de nouveau il travaille dans nos cœurs, dans nos vies, ça peut être un peu douloureux. Et ça l'a été pour Pierre. Mais pour toujours dans ce but de nous ramener, j'ai prié pour toi. Alors, lorsqu'on s'est éloigné du Seigneur, lorsqu'on a cette amertume, ces pleurs de Pierre, on voit c'est Pierre qui a pleuré amèrement. Il y a certainement une douleur dans le cœur de Pierre, lorsque le Seigneur l'a regardé, qu'il a réalisé ce qu'il avait fait, qu'il est sorti, eh bien, le Seigneur s'occupait de lui à ce moment-là. Et les prières du Seigneur certainement ont contribué à ramener son disciple vers lui, à travailler dans son cœur.
L'expression du Seigneur envers Pierre est touchante profondément. Moi, déjà, il dit « c'est Satan qui est là, derrière ». Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Pierre ne savait pas ce qu'il allait rencontrer. Il était persuadé qu'il allait suivre le Seigneur jusqu'au bout. Mais le Seigneur lui dit cette parole si touchante. Il nous l'a dit à nous ici aujourd'hui. Quelqu'un a des difficultés. Nous ne savons pas le chemin qui nous attend, personne. Mais nous savons, le Seigneur il dit, moi j'ai prié pour toi. Pour toi, jeune fille, jeune homme. Pour toi, enfant, pour nous plus âgés. Avant les difficultés dans le chemin que nous rencontrons. Et nous en rencontrons de bien difficiles parfois. Moi, j'ai prié pour toi. C'est personnel. C'est quelque chose entre l'âme achetée, ton Seigneur. Et il veut nous le dire aujourd'hui. Il veut dire à quelqu'un, moi, j'ai prié pour toi. Tu ne sais pas le chemin que moi, je sais. Parce que le Seigneur connaît le chemin. Il nous connaît nom par nom. Il sait très bien ce qui est devant chacun de nous. Il savait que Pierre allait tomber. Moi, j'ai prié pour toi. Et Satan voudrait faire défaillir notre foi, afin que ta foi... Oui, tu as la foi en moi, Pierre. Tu es mon racheté, je t'ai aimé. Toi, ne défaille pas. Et puis, viens plus loin. Quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. C'est-à-dire que même le Seigneur va plus loin. Il voit déjà la restauration. Et on verra les trois étapes de la restauration. La première, on vient de la voir, quand le regard du Seigneur. Et puis ensuite, il y a un entretien personnel en Luc 24. Et puis, il y a Jean 21. Mais quand tu seras revenu, il prévoit déjà que Pierre va être restauré. Tu restaures mon âme, mon enchanté. Il veut le faire pour chacun de nous. Nous restaurer, nous ramener, nous faire jouir à nouveau de sa communion. Et là, il dit même, fortifie tes frères ensuite. C'est-à-dire déjà, il entrevoit le travail, la mission qu'il donnera à faire. Oui, il y a quelqu'un qui va le renier. Quelle grâce infinie que celle du Seigneur. N'oublions pas, toutes nos vies, pour tous les pourquoi que nous avons. Le Seigneur nous dit, moi j'ai prié, toi.
Puisqu'on est dans ce passage de Luc 22, peut-être qu'on peut aussi souligner quelque chose. Satan, on en a parlé un peu ce matin, a demandé. Il ne commande pas Satan, il demande. Dieu reste le maître de la situation. On sait que dans le livre de Job aussi, Satan demande. Et Dieu lui donne un mandat avec cette majestueuse prérogative de notre Dieu de savoir tirer du bien de tout le mal qu'il permet à Satan de faire. Ça, c'est la prérogative de Dieu. De tirer du bien du mal qu'il permet à Satan de faire. En effet, que ta foi ne défaille pas. Imaginons tout ce qui a pu se bousculer dans le cœur et dans l'esprit de Pierre. S'attendait pas à ce que le lendemain, à 9h du matin, le Seigneur Jésus soit mis sur une croix. On l'a dit ce matin, il s'attendait à un trône. Et Pierre pouvait se dire, la dernière chose que le Seigneur a entendue de moi, c'est de dire, quand j'ai dit, je ne le connais pas, avec serment, avec imprécation. C'est la dernière chose que le Seigneur a entendue de moi. On imagine la détresse de cet homme. Le Seigneur a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Et il y a aussi un passage qu'on trouve à la fin de Marc quand le Seigneur dit « Allez dire à ses disciples » c'est le chapitre 16, verset 7 « Allez dire à ses disciples et à Pierre » comme si le Seigneur lisait dans les pensées de Pierre en disant il n'osera pas venir. Après ce qu'il a fait, il doit être complètement submergé par ce qu'il a fait. Dites à ses disciples et à Pierre, montrant déjà la grâce du Seigneur qui a entendu pourtant son reniement, mais qui l'a poursuivant un travail de restauration. Alors, permettez-moi encore de dire quelque chose, j'ai vraiment très à cœur. On ne doute pas, aucun d'entre nous ici ne doute que Pierre s'est repenti. Et le déclencheur de cette repentance a été bien le regard du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que nous savons, nous, repentir. Individuellement, en famille et dans les assemblées. Quelquefois, on entend des situations d'assemblée, on dit « Oh, c'est tellement compliqué !» Oui, c'est compliqué quand on veut faire des négociations, c'est compliqué quand on essaye de jouer au juge d'instruction, c'est compliqué. Mais quand il y a de la repentance, les problèmes fondent comme neige au soleil. Et certains qui connaissent un petit peu l'état des assemblées ici et là dans notre pays, nous avons un problème. Nous avons un problème. Tout se réglerait s'il y avait de la repentance. Alors on est quelquefois très, très choqués. On se dit, les gens du monde, ils ne se repentent pas. Je leur ai donné une offre de calendrier, le calendrier, ils ne se repentent pas. Oui, mais est-ce que nous, on sait se repentir? On trouve que les gens du monde devraient se repentir. Mais est-ce que nous sommes capables de nous repentir? Est-ce que quand on a l'impression que c'est l'autre dans le rassemblement ou mon conjoint qui a 90% des torts, oui, mais il me reste 10%, il me reste peut-être qu'un pour cent. Est-ce que je suis prêt à me repentir pour ce 1%? Est-ce que je suis prêt à reconnaître, non pas à faire le procès de l'autre, parce que quand je fais le procès de l'autre, c'est que je n'ai pas fait le mien. Est-ce que je suis prêt à me repentir? Bien aimé, j'ai très à cœur de dire ça. Seigneur, dans toute la parole et toute dispensation confondue, ne nous montre pas d'autre chemin de restauration que cela. Il n'y en a pas d'autre. Vous prenez 2 Pie 1, il n'y en a pas d'autre. C'est la repentance. Le Seigneur nous aide. Nous donnons de nous tenir devant lui et d'apprendre à courber les chines lorsqu'il y a un problème que nous ne réglons pas. Il ne se réglera que, les problèmes d'assemblée ne se régleront que dans la repentance.
La nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il a institué la scène. Ce signe de communion. Et de là, pendant cette soirée, il a aussi spécialement parlé à Pierre. Nous avons vu qu'il a prié pour lui. Nous voyons en Jean 13, que le Seigneur, il savait que son heure était venue, passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il aima aussi Pierre, il aima toi et moi jusqu'à la fin. Il a donné sa vie pour toi, moi. Et il veut avoir la communion avec chacun de nous. Et c'est déjà ce qu'il nous parle. Et il parle spécialement à Pierre qu'il veut avoir une communion avec lui. Et c'est pourquoi tout doit être réglé. C'est pourquoi il lave les pieds des siens. Il se lève du souper. Il se ceint et il prend de l'eau pour laver les pieds de ses disciples. L'eau nous parle de la parole de Dieu, la parole qui nous parle à nous. On a vu son regard qui a regardé son disciple. Maintenant, ici, il se met aux pieds de son disciple. Il lui lave les pieds. Et ce disciple dit, « Oh Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Verset 6. Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Il lui lave les pieds, mais il lui explique encore, parce qu'il ne comprend pas tout de suite. Nous aussi, nous sommes durs d'oreille et durs de cœur. Nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous dire. Quand il utilise l'eau pour nous laver les pieds, on veut lui-même enlever nos pieds.
On dit, non, toi tu ne l'as pas dit. Puis, s'il utilise un serviteur qui veut nous parler, qui veut parler à nos cœurs par la parole, on a le cœur dur. On veut pas écouter. On ferme les oreilles, on ferme le cœur pour écouter la parole de Dieu qui il veut que nous laver. Il veut que nous ayons la communion avec lui. Alors, il dit, Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui dit, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous êtes nets, mais non pas tous, car il savait qu'il le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Alors, Judas n'était pas net. On voit bien clairement ici. Il a été 3 ans et demi avec le Seigneur, mais il n'avait pas ouvert son cœur pour le Seigneur. Il le suivait seulement pour après le livrer. Alors, est-ce que tout le monde est net ici dedans? Est-ce que tout le monde est vraiment lavé du sang du Seigneur Jésus? Alors, ici, il y en avait la plupart des nets. Pierre, il était net, c'est à Pierre qu'il le dit. Tu n'as pas besoin d'être lavé. Mais si tu as besoin que je te lave les pieds. Alors les pieds, c'est ça ce qu'on souille pendant la marche ici sur cette terre. Nos pieds. Là où ce qui touche la terre, chaque jour, on peut se souiller. Il faut être lavé. Et ça, il montre à Pierre qu'il a besoin de les pieds lavés parce que, il dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. La part avec lui, ça veut dire la communion avec lui. Cette part, cette communion avec lui. Il ne dit pas, tu n'as pas part de moi. Non, on appartient à Christ, on est membre du corps de Christ, on est lavé et on est scellé par le Saint-Esprit, uni avec lui. Mais cette communion avec lui, c'est ça ce qu'il nous faut. Et s'il y a quelque chose entre nous et le Seigneur, s'il y a un péché entre nous et le Seigneur, il n'y a pas de part avec lui. Alors, et c'est pourquoi il avait besoin d'être des pieds lavés. C'est aussi un enseignement qu'il doit montrer à Pierre. Et encore ça, qu'il a prié pour lui. Et il le comprendra plus tard. Pierre l'a compris plus tard. Disons encore en Hébreux 12. Verset 10 à la fin. Mais celui-ci, Dieu, nous discipline pour notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Alors, plus tard, tu comprendras plus tard. Plus tard, il était exercé et avait ce fruit paisible. Cherché par elle. Alors, certainement, ces 3 jours après avoir renié le Seigneur, je m'imagine qu'il est passé dans des heures terribles. S'il n'y avait pas eu la foi pour laquelle le Seigneur a prié pour que cette foi ne disparaisse pas, je pense qu'il serait suscité. Mais, il y avait quelque chose. Le Seigneur avait prié pour lui. Il savait, j'ai prié pour toi, quand tu seras restauré, fortifie tes frères. Lui qui était passé dans cette tribulation, dans cette discipline, il avait ce fruit paisible. Il pouvait plus tard fortifier ses frères. Et on le voit très bien dans les épîtres de lui.
peut-être venir sur quelque chose d'un peu plus technique. Donc, au début de l'évangile de Jean, pas quelque chose que j'ai trouvé tout seul, vous trouvez ça dans les écrits, sans pouvoir vous donner un auteur précis, pas toujours un mémoire de ce que je lis, de l'auteur de ce que je lis, où nous avons un tableau prophétique qui nous est donné au début de Jean, par rapport au lendemain. Vous savez que, chapitre 1er, vous avez un premier lendemain lorsque le Seigneur vient voir Jean le baptiseur et qui dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce lendemain nous amène donc à la croix, le moment où le Seigneur Jésus allait être crucifié. Et puis tout de suite après, il y a marqué « le lendemain encore ». Le lendemain encore, donc c'est le même jour, c'est le jour où les disciples sont invités à suivre le Seigneur, sont invités à se réunir avec le Seigneur, puisqu'ils demeurèrent ce jour-là. Rabbi, où demeures-tu ? Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. C'est le jour du témoignage aussi, puisque c'est là le moment où André va parler à son frère le lendemain. Et puis, une fois que ce lendemain et ce lendemain encore, cette journée qui nous parle du temps dans lequel nous sommes, c'est bien le temps où le Seigneur nous invite à le suivre. C'est le temps où le Seigneur nous invite à nous réunir comme ces hommes à la dixième heure, donc après la croix. Et c'est le temps aussi du témoignage. D'accord ? Et puis après, nous avons cette reprise des relations avec Israël dans le type de Nathanaël. Hein ? Peut-il venir quelque chose de bon, de Nazareth ? Et on voit la bénédiction qui termine le chapitre 1 en disant cette échelle qui nous ramène à l'échelle de Jacob. Mais je ne voudrais pas être trop compliqué, c'est un sujet extraordinairement intéressant. Ce sujet où le Seigneur dit, vous verrez ce contact entre la terre et le ciel. Alors qu'aujourd'hui, excusez-moi, il y a une rupture totale entre le ciel et la terre. Le monde est complètement perdu. Il a renvoyé le remède que Dieu lui avait envoyé en le mettant sur la croix. Mais à ce moment-là, bien, il y aura cette échelle sur le Fils de Dieu, Christ, mettant cette harmonie entre la terre et le ciel. Et qu'est-ce que nous avons après, chapitre 2 ? Nous avons les noces de Cana, qui sont une scène complètement milléniale, où c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui donne cette joie milléniale. Alors, nous avons un pendant de cela ici. Nous l'avons à partir du chapitre 20, lorsque vous avez une Marie éplorée. Et cette fois, au lieu d'avoir l'annonce de sa mort, nous avons un passage qui nous parle de sa résurrection, le pendant. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et puis, après, le lendemain encore, c'est le temps de nous réunir autour du Seigneur et c'est le temps de proclamer son nom. C'est ce que nous avons, si vous avez maintenant Jean 20, à partir du verset 19 au verset 23, où nous avons le temps du témoignage dans lequel nous sommes. Et puis, on passe au verset 24, donc le paragraphe jusqu'au verset 31 qui nous parle. On avait Nathanaël dans le premier chapitre et ici nous avons Thomas, celui qui ne croit pas, qui n'est pas sur un terrain de foi, qui dit « moi je veux voir ». Et Nathanaël a dit « rien de bon de Nazareth ». Et le Seigneur se révèle à lui comme à Nathanaël, « mon Seigneur et mon Dieu ». Et que dit-il là ? « Mon Seigneur et mon Dieu », dit Thomas, reconnaissant la seigneurie du Seigneur. Et c'est ce que fera le résidu. Lorsque, après cette grande tribulation, eh bien, il sera débarrassé pour en finir avec l'iniquité, comme Daniel 9, pour entrer dans le règne millénial dont la pêche nous parle. Et nous avons justement, et ça introduit notre sujet après, excusez-moi, je suis un peu long de nouveau, et Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Alors, excusez-moi, j'ai encore quelque chose à dire par rapport à ce côté prophétique. Ça, c'est quelque chose qu'on tient de notre regretté frère Paul Finet, qui disait dans une réunion que ce résidu, on en fait par partie, bon, les jeunes, vous êtes bien au clair quant à ça, hein, nous, on part avec le Seigneur, et puis après, Dieu va sortir un résidu. Eh bien, ce résidu est typifié par trois disciples qui sont complètement à part. Si je vous dis comme ça, quels sont sur les 12 les disciples qui sont particulièrement mis à part ? Vous allez facilement me répondre. Vous allez dire, mais c'est Pierre, en particulier. Pierre le premier, ça nous est dit quelque part. Puis vous avez les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. D'ailleurs, c'est pas eux qui traînaient par là. C'est le Seigneur qui les a pris avec lui dans deux circonstances. Dans trois circonstances. À la résurrection de la fille de Jaïrus, il a mis tout le monde dehors, il a pris que ses trois disciples. Sur la montagne de la transfiguration, vous avez les trois disciples, témoins de sa gloire, comme le résidu plus tard. Et vous les avez les trois à Gethsémané, témoins de ses souffrances. Et ces trois, c'est pas de moi, c'est Paul Finet qui nous disait ça, typifient le résidu. En quoi ? Eh bien, Pierre, c'est justement, d'une manière générale, Israël a renié son Messie. Ils sont sous le gouvernement de Dieu. Ils le seront, mais ils le seront d'une manière tout à fait exceptionnelle lorsque Dieu, le Seigneur, va les discipliner et il va les amener au creuset pour en tirer un résidu pour lui. Et c'est bien ce que le Seigneur fait vis-à-vis de Pierre, va renier. Et on aura l'occasion de parler de ce côté-là. Pierre, donc, nous parle d'une manière générale du résidu qui a besoin d'être restauré, qui est amené à la repentance. Maintenant, Jacques nous parle du résidu, il sera martyr. Vous prenez chapitre 12, il me semble, d'Actes. Eh bien, c'est lui qui est martyrisé par Hérode, qui aurait bien voulu aussi martyriser Pierre, mais il n'a pas pu, vous savez bien pourquoi. Puis Jean nous parle du résidu qui va jusqu'au bout. Vous avez vu qu'on a lu ? Et si je veux qu'il demeure jusqu'à la fin, le Seigneur ne dit pas ça comme ça. Et ce résidu qui, même s'il est exilé à Patmos, va traverser cette tribulation en souffrant, mais qui arrivera au bout pour accueillir le Seigneur dans son règne. Vous voyez, comme quoi cette parole, c'est merveilleux la parole de Dieu, vous avez un récit qu'on peut prendre au premier degré, et puis vous avez des choses extrêmement riches quant au plan prophétique. Et là, nous avons donc ce résidu qui est typifié, on pourra en parler des trois scènes où ils sont là, mais je ne vais pas être plus long que cela. Mais Pierre nous parle justement d'une manière plus globale de ce résidu d'Israël qui a renié son Messie et qui est amené dans la discipline jusqu'au moment où là, Seigneur touchant ses affections, va le restaurer et va lui donner d'être une bénédiction, pas seulement pour son peuple, mais pour l'ensemble des nations, répondant à ce qu'il avait promis à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre ». Excusez-moi pour la longueur.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, donc le chapitre précédent, celui qu'on a lu, il y a un détail qui est donné assez surprenant. Je me suis souvent demandé pourquoi il y était. Lorsqu'on vient dire aux disciples, Marie de Magdala a vu le Seigneur ressuscité. Il y a deux disciples qui partent en courant. C'est Pierre et Jean. Et si je lis au chapitre 20, verset 4, Pierre donc sortit, et l'autre disciple, ils s'en allèrent au sépulcre. Et ils couraient les deux ensemble. Ils courent pour aller voir cette tombe dont on vient de leur dire que le Seigneur est ressuscité. Et détail assez surprenant, ils couraient les deux ensemble. Et l'autre disciple, dont Jean, courut en avant plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et puis donc Simon, donc qui suivait, arrive. On peut se demander pourquoi il y a ce détail pour dire qu'il y en a un qui court plus vite que l'autre. Peut-être que Pierre, il avait envie de savoir, mais ce n'était pas si facile pour lui de dire « Mais si le Seigneur est réellement ressuscité, ça veut dire que je vais le rencontrer, ça veut dire que je vais le voir. » Et comme on a dit, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour crier que je ne le connaissais pas, que je ne savais pas qui il était. C'est la dernière fois qu'il m'a entendu, c'est pour dire ça. Alors me retrouver en face du Seigneur, on comprend peut-être qu'il a laissé Jean courir un peu plus vite, qui était peut-être plus motivé à ce moment-là pour le rencontrer. Et puis ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, il n'y a aucun détail, si ce n'est qu'il y a eu cette rencontre. On a lu déjà dans Luc 24, verset 34, tout à l'heure, le fait qu'il est apparu aux 12 à Pierre. Et puis je lis aussi dans 1 Corinthiens 15, chapitre qui parle de la résurrection. C'est Paul qui rend aussi ce témoignage. 1 Corinthiens 15, verset 4. Donc Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, donc de Pierre, puis des 12. Donc vraiment, la parole insiste, et ne nous donne aucun détail, ne nous raconte pas cette rencontre, mais l'Esprit de Dieu veut qu'on sache que Pierre s'est retrouvé à un moment donné seul avec le Seigneur. Et c'est vraiment dit plusieurs fois clairement. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais comme Marc l'a dit tout à l'heure, on sait qu'il y a une confession. La relation personnelle entre Pierre et son Seigneur, à ce moment-là, elle était rétablie. Et qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est que quand on revient au chapitre 21 de Jean qu'on a lu, les disciples sont partis pêcher. Pierre, c'est un peu un leader, il dit « Allez, off, allons pêcher », puis les autres suivent. Et puis ils partent, puis ils pêchent toute la nuit, ils ne prennent rien. Ils reviennent, et ils s'approchent du rivage, et ils voient un homme sur le rivage. Et à ce moment-là, ils ne savent pas qui c'est, qui est celui qui est là. Et alors je lis, je vais relire donc, Jésus leur dit « Enfant, avez-vous quelque chose à manger ?» Les disciples, ils sont dans la nacelle à 200 coudées, ça fait peut-être 100 mètres du bord. Et on imagine le Seigneur qui leur parle fort, ils sont sur la barque, « Est-ce que vous avez quelque chose ?» Alors ils disent « Non ». Et le Seigneur leur dit « Jetez le filet du côté droit ». Et alors ils jettent le filet, qui rappelle bien sûr une scène du début de l'évangile. Ils avaient rencontré le Seigneur, on va dire, avec une pêche miraculeuse. Et le Seigneur se fait connaître, ressuscité aussi par le moyen de cette pêche miraculeuse. Et alors, extraordinaire, ces poissons qu'ils n'arrivent même plus à sortir, tout à coup le filet est rempli. Et alors à ce moment-là, tous les disciples sont en train d'essayer de tirer le poisson pour le sortir. Il y en a un qui ne s'occupe pas des poissons. Il y en a un qui se jette à l'eau, il met une robe sur lui, il se jette dans l'eau. Et il est le premier, cette fois-ci, ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Jean qui court vers le Seigneur pour aller le voir, c'est Pierre qui, avant tous les autres, court pour foncer vers le Seigneur, pour aller vers lui. Les poissons, ce n'est pas le souci, le sujet des poissons, il veut voir le Seigneur, il fonce vers lui pour aller le retrouver. Alors ça montre à quel point, entre la scène où il était le dernier, où il courait derrière Pierre, sûrement en tremblant, et cette scène-là, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pour qu'il ait l'envie de courir vers lui sans attendre. C'est très beau. Mais il y a encore quelque chose qui doit se passer, c'est ce qu'on va... On en parlait maintenant, c'est qu'il fallait aussi que tout le monde, sans doute, savait ce qui s'était passé. Peut-être même quand il disait aller dire aux disciples et à Pierre, peut-être même que les disciples savaient ce qui s'était passé. Il y avait un doute, est-ce que Pierre fait encore partie des disciples? Est-ce qu'il est encore avec nous après ce qui s'est passé? Il y avait un besoin que cette restauration, elle soit publique, elle soit connue de tous, qu'elle soit évidente, qu'elle soit restaurée publiquement pour pouvoir à nouveau servir le Seigneur avec les autres disciples. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette restauration qui soit là. Et cette restauration, elle va être tellement complexe que 4 fois le récit du reniement est donné dans les évangiles. Il n'en sera à aucun moment question pendant toutes les épîtres. Paul va parler de lui en disant « j'étais un blasphémateur », il va rappeler plusieurs fois ce qu'il était avant sa conversion. On aurait pu penser que Pierre ou d'autres disciples, quand il y a eu des conflits aussi, on aurait pu faire des allusions à ça, à ce qu'a été Pierre, etc. Non, jamais. Il ne sera plus fait la moindre mention de ça. Et Pierre va même être celui qui va dire aux Juifs, « Vous avez renié le Saint et le Juste. » Il faut être complètement restauré, il faut être complètement droit, sûr que tout est totalement effacé pour pouvoir dire que Pierre puisse dire que vous avez renié le Saint et le Juste, mais il l'a dit poussé par l'Esprit de Dieu, et il était en droit de le dire, on peut dire, parce que la chose était entièrement réglée, lui-même avec le Seigneur, publiquement par rapport aux autres, la chose était réglée définitivement, il n'y avait plus jamais besoin d'y revenir, et il va pouvoir servir le Seigneur et rendre ce témoignage, vous avez renié. Alors voilà ces différentes étapes, cette restauration individuelle, et dans le cadre de Pierre, maintenant, il fallait que ce soit aussi public par rapport aux autres disciples.
Permettez-moi juste de revenir sur cette Luc 24, 34, n'est-ce pas, quand il est dit « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon ». On a laissé à la fin de Luc 22, Pierre pleurait amèrement, il y avait le regard du Seigneur, il y a eu la repentance, mais que les heures ont dû être longues pour Pierre. Il y a eu toute la journée de la crucifixion. Il y a eu le temps où le Seigneur était dans le tombeau. Pierre, on ne le voit plus là. Jean était au pied de la croix avec Marie. Pierre, on ne le voit pas, c'est pas mentionné. Il avait pleuré amèrement. Peut-être il était encore sous cette crainte-là. J'ai renié mon Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Et alors, le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Il apparaît d'abord à Marie de Magdala, premièrement à elle. Puis dans la journée, on ne sait pas quand. Il y a eu les deux disciples d'Emmaüs avant ou après. En tous les cas, à un moment donné, il y a eu le Seigneur est apparu. Simon. Le regard du Seigneur n'avait pas suffi pour que la communion soit retrouvée avec son disciple. Il fallait qu'il y ait cet entretien. Cœur à cœur, seul à seul. Il n'est pas dit ce qu'ils se sont dit, mais il y a eu un entretien. Il est apparu à Simon. Ils ont parlé tous les deux. Le Seigneur veut aussi nous parler individuellement. On a des choses aussi à voir avec lui. Il y a des choses qui sont secrètes avec le Seigneur. Et ce n'est pas à raconter à droite, à gauche. Non. Ces moments-là, où on goûte la communion avec le Seigneur, chose de particulièrement précieux, où on retrouve, peut retrouver la communion avec le Seigneur. Est apparu à ces mots. Est-ce qu'il nous apparaît à l'un, à l'autre, à chacun? Il veut se faire connaître à nous, comme il s'est fait connaître à Simon, pour que nous retrouvions la communion. Doux entretien entre Pierre et son Seigneur. Apparu à Simon, là, dans cette journée de la résurrection, Pierre a retrouvé le plein pardon, la joie de la communion avec le Seigneur. Et alors en Jean 21, comme Rémi vient de le dire, il va y avoir la restauration publique, qui est si belle aussi, magnifique. Mais il y a eu cet entretien personnel que nous puissions avoir aussi. Nous avons manqué, comme nous sommes détournés, d'avoir cet entretien personnel avec celui qui veut nous relever, nous guérir, nous pardonner.
Dans ces trois phases de la restauration de Pierre, on en a parlé ce matin, n'est-ce pas? Il y a eu donc le regard du Seigneur, il a pleuré amèrement. Il y a eu cet entretien, on dirait, entre quatre yeux dont il est question, et on l'a lu en tout premier dans Luc 24, et puis nous avons le texte qui est placé devant nous cet après-midi. Donc trois étapes, on indique les deux premières étapes. C'était la restauration de Pierre quant à sa conscience. Et puis la dernière étape qui est maintenant devant nous, sa restauration quant à son cœur. On a déjà quelque chose de cela dans la loi du lépreux, n'est-ce pas ? Il était purifié, le sacrifice avait été offert, et il fallait attendre encore 8 jours. 8 jours pour qu'il puisse entrer dans le camp, pour que sa communion soit pleinement rétablie. Pourtant, quand les oiseaux ont été offerts, il faudrait chercher les passages dans Lévitique, la loi du lépreux, dit il est pur, et on peut dire qu'après l'entretien du Seigneur avec Pierre, il était pur. Sa conscience était apaisée. Le Seigneur lui avait pardonné. Mais il restait encore qu'il soit restauré dans son cœur et dans ses affections. Quand on peut mesurer son reniement, le reniement de Pierre a duré combien de temps? Quelques secondes. Quelques minutes peut-être. Entre ces trois reniements. Et on voit comment pour retrouver une pleine communion? Eh bien, il y a des étapes. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Si vite, nous avons perdu la communion avec notre Seigneur, il suffit de tellement peu de choses. Elle est si fugitive. Et quelquefois, il nous faut bien du temps pour retrouver une pleine relation avec notre Seigneur.
Pierre aurait pu dire, voilà, je suis restauré. J'ai eu mon entretien avec le Seigneur. J'ai pleuré. Tout est clair. Non, ce n'est pas clair. Fallait une restauration publique. Il avait nié publiquement devant tout le monde. Et c'était un péché grave. Alors, il fallait aussi une restauration publique. Il fallait que le Seigneur touche son cœur. Souvent, on dit superficiellement, voilà, bon, j'ai péché. J'ai entendu de pas mal de personnes dans la Bible, Saul, même Judas. Mais ce n'était pas une vraie repentance. Ce n'était pas assez profond. Alors, Pierre, Seigneur, il avait déjà touché son cœur, sa conscience. Mais vraiment, il fallait vraiment aller au profond de son cœur, au fond. Qu'est-ce que c'était ça? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il avait plus ou moins dit ça. Moi, je t'aime plus que les autres parce que moi, je te abandonnerai jamais. Je suivrai tout le temps. Et combien vite? Ce n'était pas le cas. Alors, maintenant, devant ceux qu'il avait dit, je t'aime plus que les autres, le Seigneur devait sonder son cœur pour lui montrer qu'il est. Oui, il l'aimait vraiment, mais il fallait que ça vienne vraiment à la connaissance des autres.
Le début de Jean 21 est touchant aussi. On voit que mon Pierre et quelques-uns des disciples sont au bord du lac de Galilée, de Tibérias. Et puis, si mon Pierre retourne pêcher, il était pêcheur, il revient à son métier d'origine. Et puis, cette nuit-là, à la fin du verset 3, ils ne prirent rien. Et Jésus sur le rivage. Et ça a dû faire penser à cette scène de Luc 5, n'est-ce pas, où là aussi c'était Capernaum ou Bethsaïda, enfin, c'était l'endroit où le Seigneur était et où il y avait Pierre, André, Jacques et Jean. Et là aussi, il est dit en Luc 5, au verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Comme là. « Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Puis, il est obligé de reconnaître à genoux, « Il est pécheur, retire-toi de moi. » Et il y a ce miracle extraordinaire qui, devant ce miracle extraordinaire, et quelque part, la même scène va se répéter là, Jean 21. Quelle grâce que celle du Seigneur. Seigneur ressuscité, il est là aussi, au bord du lac de Galilée. Là où pendant 3 années, il a semé la bonne nouvelle, où il a guéri, où il a fait tant de bien, où il a parlé. Il se retrouve là, jetez le filet côté droit de la nacelle et vous trouverez. Ah oui, lui aussi devait se souvenir de ce moment 3 ans avant où il avait fait ce miracle de la pêche miraculeuse. Et là, à nouveau, ça se répète, n'est-ce pas? Et là, c'est le Seigneur, Simon-Pierre, saint sa robe, se jette dans la mer. Simon Pierre ensuite monte et tire le filet plein de 153 gros poissons. On ne va pas parler de ce que ça signifie. Mais alors, tout était prêt. Jésus leur dit, venez dîner. Avant d'avoir ce contact personnel ce contact public, plutôt la restauration publique de Pierre avec... il y a cet entretien, il y a ce repas entre les disciples et Pierre et le Seigneur. Il avait tout préparé, n'est-ce pas? Il y a le pain, il y a le poisson. C'est la troisième fois que le Seigneur est manifesté aux disciples. Quelle grâce infinie que celle du Seigneur Jésus, qui à nouveau accomplit ce miracle, qui nous montre à ses disciples à Pierre qu'il est le même, qu'il n'a pas changé. Il est l'homme ressuscité, mais l'homme puissant toujours pour accomplir ce miracle. Et alors ensuite, il va retenir avec Pierre et à trois reprises, toucher, comme Benjamin l'a dit, son cœur. Simon, m'aimes-tu?
Il pourrait nous arriver d'être comme Pierre, comme pas tout à fait dans la communion avec le Seigneur, de nous étourdir, peut-être par le travail, par une activité débordante. Il est retourné à son bateau et à ses poissons. Et pourtant le Seigneur lui avait dit, dorénavant, dans Luc 5, qu'on a placé devant nous, dorénavant, tu prendras des hommes, c'est-à-dire les poissons, c'est fini. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Eh bien, il est retourné parce que sa relation avec le Seigneur n'était pas ce qu'il fallait. Il y a un aspect très pratique pour nous. Quand on s'étourdit peut-être dans un activisme extraordinaire, peut-être même pour le Seigneur, un peu comme Marthe dont on parlait ce matin, ça peut être le signe que notre relation avec le Seigneur n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. En tout cas, par rapport à Luc 5, le Seigneur, dans Luc 5, est sur la mer. Là, il est à terre. Ça nous montre bien le côté prophétique, n'est-ce pas? Le Seigneur ne monte pas dans le bateau cette fois. Mais vous avez certainement, comme moi, imaginé ce que c'était. C'était le même lac. C'était le même bateau. C'était les mêmes filets. C'était une nuit qui ressemblait exactement à la nuit de Luc 5. C'était le même mouvement pour tirer peut-être des filets qui s'égouttaient pleines d'algues et de cailloux. Pierre, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se rejoue là, comme nous l'a dit tout à l'heure Marc. Seigneur, souvent, permet que nous soyons nouveaux dans des situations que nous avons connues parce que nous avons quelque chose à régler. Et alors, il faut le discernement de celui qui, pour la quatrième fois, dit le disciple que Jésus aimait pour discerner, c'est le Seigneur. Dans la mesure où nos affections sont réveillées pour lui, que nous verrons le Seigneur dans notre vie. Ça vous arrive, les jeunes, d'avoir des doutes? Peut-être même des moins jeunes. Si vous avez des doutes, vous êtes jeune ou plus âgé, et que votre cœur est débranché, vous avez des doutes, et que votre cœur est débranché. Du cœur, on croit à salut. Toute la parole est claire quant à cela. Les raisonnements, si un jeune qui raisonne et qui doute, c'est parce qu'il raisonne. Les choses de Dieu ne se discernent pas par notre intellect. C'est du cœur qu'on croit à salut. Si tu crois dans ton cœur, on trouve de multiples versets. Et Jean voit le Seigneur parce que son cœur est en éveil. Et alors, pour ajouter au côté prophétique que j'exposais tout à l'heure, on va tirer des poissons de la mer, image des nations, sur la terre, ce qui sera la bénédiction des nations par Israël. En ta semence, Abraham, seront bénies toutes les nations de la terre. Et ces 153 gros poissons nous parlent de ces nations qui seront
qui viendront même à Jérusalem, des gens qui saisiront un homme juif en disant nous savons que nous venons avec toi parce que nous savons que l'Éternel est avec toi, toutes ces bénédictions milléniales qui sont là dans ces imagées par ces poissons. Et puis alors, comme l'a dit un petit peu Marc, et c'est très très beau, Seigneur, le prend pas de court. Imaginons un Pierre qui a d'abord été transpirant, qui est maintenant tout mouillé. Et le Seigneur ne va pas aller, viens Pierre. Non. Lorsqu'ils eurent dîné. On voit la douceur. Satan, lui, il nous prendra toujours un moment où on est mal, si on peut dire. Un moment où il sait que là, ça va marcher parce qu'on est déstabilisé. Le Seigneur, il les laisse dîner quand ils eurent dîné. On voit la sollicitude du Seigneur pour son disciple. Je ne te prends pas à froid, je ne te prends pas n'importe comment, je te prends. Quand tu t'es chauffé, tu as peut-être un peu fait sécher tes habits, et maintenant, il va parler à son disciple.
Ce qui est très beau dans le Seigneur, c'est qu'il ne fait pas de reproches. Il est dit, on a vu tout à l'heure, que tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Et puis au verset 5, on voit le Seigneur qui dit « Enfant, avez-vous quelque chose à manger ?» Je ne sais pas si on réagirait comme ça par rapport à des personnes qui nous laissent tomber. La même chose pour Pierre, verset 15. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ?» Le Seigneur ne dit pas à Pierre « Pierre, tu m'as renié. » Le Seigneur dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre, il est plein d'illusions sur lui-même, encore. Il dit « Mais oui, Seigneur, je t'aime. » Le Seigneur ne lui répond pas en lui disant « Mais tu m'as renié. » Le Seigneur lui répond « Paie mes agneaux. » Il y a quelque chose dans le Seigneur qui est un modèle pour nous de ne pas faire de reproches aux autres et de leur parler avec délicatesse. Ce n'est pas en faisant des reproches aux autres que l'on les gagne. Le Seigneur a gagné Pierre par son amour, par sa délicatesse.
Dire quelque chose qui est peut-être utile, je ne sais pas, des choses que j'ai lues et sans être très helléniste, c'est-à-dire sans connaître le grec. Nous savons qu'en français, on a le même mot pour dire qu'on aime un bon repas, qu'on aime une personne ou qu'on aime le chocolat. On a le même terme, c'est aimer, mais le grec, non. Le grec est une langue spécialement riche, emploie plusieurs expressions pour le verbe aimer. Et là, sans être helléniste, on sait que ce n'est pas toujours le même terme. Quand le Seigneur demande les deux premières fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» c'est, semble-t-il, le verbe « agapeo ». Agapeo qui veut dire « est-ce que tu m'aimes plus que tout ?» Est-ce que tu m'aimes plus que tout ? Est-ce que je suis prioritaire dans tes affections ? C'est un terme extraordinairement fort. Chaque fois que Pierre répond, il ne va pas dire « Seigneur, je t'aime plus que tout ». Il va employer un autre verbe en grec qui est le verbe « phileo ». Il ne va pas prendre « agapeo »,« je t'aime plus que tout ». Il va dire simplement « phileo », c'est-à-dire « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi ». En cela, il avait perdu ses illusions, n'est-ce pas? Le Seigneur lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout? Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. La deuxième fois, le Seigneur lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout?
Pierre répond, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et la troisième fois, parce que le Seigneur va aller encore plus profond, le Seigneur, la troisième fois, ne va pas employer le verbe agapeo. La troisième fois, le Seigneur va dire à Simon-Pierre, « Simon-Pierre, est-ce que tu as de l'affection pour moi ?» Et là, Pierre a de la peine. Simplement de l'affection pour moi. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. On voit, comme on l'a dit ce matin, je crois que c'est Marco qui nous a présenté ça. Jean avait, dans tout son évangile, il se désigne jamais par Jean, jamais, jamais, jamais. Il se désigne toujours par le disciple que Jésus aimait, se confiant dans l'amour du Seigneur pour lui. Pierre a fait un peu le contraire, mais là c'est fini. Il s'en remet au Seigneur. Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Combien c'est beau, quel fruit. Seigneur s'est mûri dans le cœur de son disciple pour perdre toute illusion sur ses sentiments pour le Seigneur, s'en remettant à ce que le Seigneur sait et non pas à ses grandes déclarations d'amour.
On sait que quand Pierre il a pleuré avec amertume, on a vu que il aime le Seigneur et sinon il pleure pas. Bon, il s'en fiche. Mais il a fait l'erreur première fois, il a menti, il a senti quelque chose peut-être, on ne sait pas. Deuxième fois, troisième fois. C'est devenu lourd. Et dès que le Seigneur il a regardé, et ça a explosé. Et souvent, c'est notre cas. En parlant beaucoup de fois avec les jeunes, et de moi-même, souvent, c'est notre expérience quand on est des croyants. On se trompe une fois, deux fois, plusieurs fois. Mais nous, on veut faire le bien. C'est comme Paul, il a dit en Romains 7. Je veux faire le bien, mais je trouve le mal devant moi. Mais première fois, Seigneur, j'en ai marre. Plusieurs fois, c'est fini, je veux pas, je peux plus. Et souvent, c'est comme Pierre. On arrive au moment, on est tellement fatigué de nos péchés, on repart à notre habitude ancienne. Pas peut-être des mauvaises habitudes, mais c'est juste des trucs, comme les frères ils ont dit, on sera occupé, on n'a plus le temps de Seigneur parce que ça nous met pression qu'on a fait au Seigneur, toujours lourd. Mais avec le temps, j'ai vu que ce que le Seigneur a rappelé, c'est pas que le Seigneur, il sait tout, c'est que notre restauration, ça dépend à notre foi et croyance et certitude dans l'amour de Dieu envers nous. En fait, c'est l'amour de Dieu qui ne bouge pas. Et c'est nous qui pensons que des fois, si on est haut, le Seigneur est nous-mêmes, il nous aime, mais si on est bas, on ne peut plus rapprocher le Seigneur. On trouve des difficultés de lire, de prier. Ça nous gêne. Le Seigneur, je ne suis pas digne de lire. Je ne suis pas digne de prier. Je ne suis pas digne d'être dans l'assemblée. J'en ai marre. Malheureux l'homme que je suis, qui peut me délivrer de ce chair de mort? Et finalement, c'est vraiment l'amour de Dieu. On doit s'accrocher. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable. On peut tenir debout. C'est cet amour qui nous fait restaurer, revenir au Seigneur, car il ne change jamais.
malgré notre niveau de la foi, ça ne change jamais.
On peut chanter un cantique et puis s'arrêter dans 25 minutes.